grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast. Selon Santé publique France, pour la première fois, la durée moyenne de sommeil quotidien des Français est passée sous la barre des 7 heures. Et si, face à une dette de sommeil qui devient chronique, dans notre pays, on s'administrait un remède simple, efficace et qui ne coûterait quasiment rien à l'assurance maladie? Je veux parler de la sieste, un médicament ancestral, hélas sous-estimé, voire raillé dans certains milieux où le siesteur passe pour un cossard, une feignasse, un paresseux. Ce, nous verrons ce matin que la sieste possède des bienfaits miraculeux pour les grands et les petits. Et puis nous verrons quelle est sa durée idéale et la position optimale pour bien siester. Dormez l'après-midi et vous irez sans doute mieux. C'est ce que nous dira notre invité, le neuroscientifique Brice Faro, qui publie Sauvé par la sieste. Avec nous également un adepte sans aucune culpabilité de la méridienne, le philosophe biarrot Frédéric Schifter. Et vous, racontez-nous vos siestes les plus mémorables, les bienfaits que vous avez pu constater sur votre santé. Standard ouvert au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Appelez-nous également si vous détestez faire la sieste. Elle adore faire la sieste après avoir bu un verre de rosé, avec modération évidemment. Guillemette Odissino et son esprit d'escalier.
Bonjour Ali, enfin, je fais la sieste aussi après une tasse de chocolat chaud par exemple.
Mais vous êtes siesteuse quand même.
Absolument, mais c'est pas lié à la boisson.
Bonjour Eric Livio.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef Culture à l'Express. Dernière chronique de la saison, hélas pour vos fans.
Oui, et puis tant mieux pour moi. Aujourd'hui, c'est la fin de la saison, donc c'est l'heure des pots de retraite, des pots d'arrivée, des pots de départ, des podcasts, tout le pot.
Ah, c'est pas mal ça. À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour à nos invités. Bonjour Brice Faro.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences. Vous dirigez des recherches sur les effets de la privation de sommeil et de la récupération de sommeil chez l'homme. Vous êtes le spécialiste de la recherche sur la sieste en France et vous publiez chez Actes Sud dans la collection Questions de santé, Sauvé par la sieste. Bonjour Frédéric Schifter.
Bonjour.
Philosophe, vous êtes en direct de Bayonne, vous êtes l'auteur du blog Le Philosophe sans qualité, vous êtes l'auteur d'une mystification littéraire Ménécée, le voluptueux inquiet aux éditions Louise Bottu, et vous êtes un adepte de la sieste tout au long de l'année, hein. Vous me confirmez ça, Frédéric Schifter? Alors, je vous cite L'art de la sieste et autres plaisirs poétiques de l'été, une anthologie de poèmes chinois. C'est l'été, sans nul doute, que l'art de la sieste trouve son expression poétique la plus accomplie. Fenêtres grandes ouvertes, la brise suave, merveilleusement fraîche, vient conférer à la rêverie du début d'après-midi son aérienne poésie et sa légèreté philosophique. Vous êtes d'accord avec ça, Brice Faro?
Complètement, complètement. Mais peut-être, vous avez parlé en entrée d'émission de l'enquête de Santé publique France, auquel j'étais co-auteur aussi. Bon, alors on a le remède, vous en faites pas. C'est ce que je propose dans mon livre, je détaillerai un sommeil biphasique. Mais avant, première chose, les Français quand même globalement souffrent du manque de sommeil. Parce que dans cette enquête, sans rentrer trop dans les détails quand même, ce que c'est impressionnant, c'est que un quart des Français, hein, c'est quand même une enquête qui avait fait sur plus de 12 000 personnes, montrer une dette de sommeil sévère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une dette de sommeil sévère? Ça veut dire qu'il dorme 90 minutes de moins en moyenne la semaine, hein, qu'il aurait nécessaire pour fonctionner correctement au point de vue cognitif et physiologique. Et 90 minutes en moyenne, à la fin d'une semaine, ça fait une nuit en moins par semaine. Et là, malheureusement, dormir si peu, ça a des répercussions à long terme.
On va revenir sur les effets de cette dette de sommeil, mais l'un des grands plaisirs de l'été qui débute aujourd'hui, c'est la sieste.
Oui, alors évidemment, je ne sais pas pourquoi, comme par hasard, ce sujet arrive au moment de l'été. Alors moi, je vais le prendre, c'est très bien, merci d'en parler. Mais la sieste, c'est justement l'été et l'occasion, parce que beaucoup de gens vous diront, sont réfractaires dans leur capacité à faire la sieste. Donc, c'est l'occasion de commencer à s'entraîner, hein, c'est comme un travail, à s'entraîner à faire la sieste tout au long de l'été, où finalement, elle est pour le plaisir, pour le goût, on pourra en parler, parce qu'il y a des capacités créatives qui peuvent être issues de la sieste, c'est agréable, c'est évidemment. Mais ça peut être aussi un intérêt de s'entraîner pour qu'elle devienne un outil de santé publique, le reste de l'année où malheureusement c'est là que la dette de sommeil est plus présente dans la semaine.
Frédéric Schifter, vous aimez la sieste et pas seulement l'été, hein?
Ah non, 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 en toute saison. Et pour moi, c'est le passe-temps royal. Enfin, c'est le passe-temps, c'est mon passe-temps favori.
Et pourquoi?
Eh bien, parce que il me semble que là, c'est l'occasion de la sieste que l'on peut se retrouver soi-même et en tout cas se mettre à l'écart du monde, parce que le monde est au fond une multiplicité d'agressions, de sensations parasites, etc. Et quand on fait la sieste, eh bien, on met le monde entre parenthèses et on se ressaisit et on se recentre en soi-même. Pour s'abandonner peut-être à des pensées comme ça divagantes, etc., ce qu'on appelle des rêves ou des rêveries. Mais en attendant, je pense que c'est une façon de résister aussi. Moi, je vois dans la sieste une forme de résistance à l'oppression du monde.
Et dans l'art de la sieste, Thierry Pacaud écrit la chose suivante. Siesteuses et siesteurs de tous les âges, de toutes les latitudes et fuseaux horaires, de toutes les professions, affirmez votre singularité et résistez au temps planétaire, satellitaire, totalitaire. Vous souscrivez évidemment, Frédéric Lifter.
Ah ben évidemment, mais comme je vous dis, je pense même que je suis une sorte peut-être de militant de la sieste. Et alors après, c'est difficile de convertir bien sûr les gens à cette forme de résistance, mais qu'ils essayent et ils verront absolument ils se sentiront beaucoup plus libres, beaucoup plus bien mieux et enfin ils verront à quel point effectivement ce monde est absolument insupportable à certaines heures de la journée, en tout cas.
Brice Faro, la sieste rime souvent avec culpabilité. Dans une société productiviste, seuls les paresseux et les inactifs s'adonneraient à la sieste.
Oui, alors j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit, évidemment. Donc là, oui, pour aller prendre ça un peu en contre-pied, plusieurs choses. Associées à la paresse, certes, mais... possiblement parce que les gens ignoraient la puissance incroyable de ne pas avoir la sieste, en particulier révélée par des études scientifiques, certes assez récentes. Deuxième chose, dans un rapport plus global, c'est vrai que c'est toujours mieux valoriser l'activité pour l'activité, bouger pour bouger, changer pour changer, un peu et moins considérer quelque chose de stable, parce que le sommeil c'est quelque chose de stable, et pourtant il se passe tellement de choses pendant le sommeil, et pourquoi on ne s'autoriserait pas à faire une sieste d'une vingtaine de minutes ?
Il y a de la culpabilité, bien sûr. Souvent de se dire, ah ben tiens, je fais rien, je suis un paresseux peut-être.
Non, parce que en fait, paradoxalement, on s'autorise à dormir 7-8 heures la nuit, hein, enfin malheureusement de moins en moins 8 heures, mais pourquoi on ne s'autoriserait pas à dormir 15-20 minutes, surtout en début d'après-midi où tous les voyants physiologiques sont au vert pour faire une sieste, hein. C'est un moment en début d'après-midi. Les Français se lèvent en moyenne autour entre 6h30 et 7h du matin. Donc, en début d'après-midi, c'est un moment où les systèmes de stress, les systèmes d'éveil vous soutiennent moins. C'est un moment où la pression du sommeil monte, un moment où physiologiquement, vous avez une petite baisse de la température centrale. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour avoir la meilleure sieste de récupération possible. C'est peut-être un reliquat de la dernière sieste de l'enfance qui disparaît malheureusement vers 4-5 ans.
Frédéric Lifter.
Oui, bien sûr, j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit. Et non, je rappelle simplement que la sieste vient du mot sexta, hein, l'étymologie. C'est-à-dire, c'est la sixième heure après le lever du matin. Et alors, évidemment, ça tombe justement après le repas de midi. Alors, on pourrait croire que la sieste, oh, c'est une affaire de digestion, etc. Non, je pense que cette sixième heure, c'est vraiment l'heure idéale pour couper la journée en deux, de telle sorte qu'on a ensuite deux journées, si vous voulez. Moi, je pense que l'adepte de la sieste, c'est un art, au fond, c'est l'art d'avoir deux journées en une. Voilà, on a un premier matin, très bien, et puis après, il y a l'autre matinée ou l'autre levée après la sieste, et on peut dire qu'une autre journée commence. Mais en tout cas, c'est comme ça que je la vis.
Frédéric Lifter, je ne sais pas vous, mais j'aime bien le synonyme de la sieste, la méridienne. J'aime beaucoup ça, et vous ?
Ah ben oui, en plus ça rappelle un peu aussi le genre de canapé sur lequel on peut s'étendre et s'abandonner à la rêverie. Alors, pardonnez-moi, je continue un peu, mais pour moi, la sieste, c'est pas forcément tomber dans le sommeil. Ça peut être aussi un peu comme Rousseau, vous savez, dans la cinquième promenade du promeneur solitaire, il évoque une espèce de somnolence qui n'est pas le sommeil, mais oui, ce qui sont des rêveries, des pensées confuses, mais qui sont voluptueuses.
Guy Métodicino.
Bah, en fait, moi, je suis née dans le sud. Et alors, ce que vous racontez, enfin, moi, ça me parle énormément, et même dans beaucoup de pays du Sud, mais ça revient au fait qu'il faut s'entraîner l'été, parce qu'il faut s'entraîner quand il fait chaud. Parce que dans les pays où il fait à peu près tout le temps chaud, effectivement, enfin, c'est après le déjeuner que même les magasins ferment. Souvent, il y a encore des villages en Provence et tout. Les magasins ferment, on ferme les volets, et alors on s'abandonne à une rêverie, ou alors on fait un gros roupillon. Ça dépend des catégories. Et on ne rouvre les boutiques ou on ne ressort dans les rues que quand la grosse chaleur est passée, qu'on s'est reposé et on attaque une deuxième journée. Enfin, il y a vraiment cette pause entre 12h et 15h où on baisse la température, mais dans tous les sens du terme, on baisse l'activité, on baisse la température et tout. Donc, en fait, allez tous dans le sud pour vous entraîner à la sieste.
Alors, j'aimerais qu'on revienne, Brice Faro, avec cette notion de dette de sommeil. C'est quoi exactement cette dette de sommeil?
Alors, la dette de sommeil, c'est alors comment on la mesure? Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est le nombre d'heures de sommeil qu'il vous manque par rapport au nombre d'heures idéales. Une autre manière de la voir, c'est de regarder comment on dort le week-end en comparaison de comment on dort la semaine. Nous, les chronobiologistes et neurobiologistes, on appelle ça un social jet lag, donc un jet lag social. Pardon, j'ai fait la terminaison anglo-saxonne. Donc, un jet lag social, c'est pas qu'on se dépasse pas sur plusieurs fuseaux lorsqu'on prend l'avion, mais le fait de dormir 2 heures de plus en moyenne le week-end que la semaine introduit un nouveau rythme biologique artificiel. Et moi, depuis toujours, je dis que ça ne suffit pas pour récupérer, pour que l'ensemble des compartiments de l'organisme récupère. Et c'est le cas. Alors, c'est toujours bien de récupérer le week-end. Hein. 15% des Français ont un social jet lag supérieur à 2 heures, selon cette dernière enquête, ce qui est trop élevé. Par contre, je finis juste.
Il existe des petits débiteurs qui remboursent vite et de grands endettés qui peinent à rembourser tout au long de leur vie cette dette de sommeil.
En fait, il y a une partie qui sera malheureusement perdue à jamais. Et pour finir sur ce que je disais juste avant, c'est il y a des études qui viennent de sortir qui montrent que la récupération de week-end, certes, on récupère une partie des fonctions, mais par exemple, si je prends la résistance à l'insuline augmente lorsqu'on est en privation de sommeil. Alors, un exemple très simple pour marquer vos auditeurs, on dort 5 nuits de 5 heures, on gagne 800 grammes en poids. Ce n'est pas lié au fait qu'on était éveillé plus longtemps et qu'on a mangé plus, c'est qu'il y a un système de récompense dans le cerveau qui fait qu'on va plus vers la nourriture. Et donc ça, au bout d'un moment, ça peut provoquer les maladies cardiovasculaires qu'on voit chez les courts dormeurs. Et le week-end, on récupère une partie de la résistance à l'insuline, mais pas l'ensemble de la résistance à l'insuline.
Mais on n'est pas tous égaux face à cette dette. J'essayais de vous dire tout à l'heure.
Ah, pardon. Non, alors vous parlez des petits dormeurs peut-être.
Il y a des petits endettés, puis des gros endettés.
Absolument. Et puis il y a des gens qui sont plus tolérants et moins tolérants à la privation de sommeil. Donc là, il y a une origine génétique à ça. Et puis, il y a les vrais petits dormeurs. Mais c'est un épiphénomène. Les vrais petits dormeurs, c'est 7-8% de la population, ceux qui fonctionnent correctement.
Et pour vous, donc, la sieste, c'est un médicament souverain contre cette dette?
C'est un.
Vous l'écrivez?
Oui, absolument. Oui.
Vous parlez même de potion magique.
Potion magique, oui, ça peut l'être. Alors peut-être à la fin du livre, on avec Actes Sud, on a fait un pan-sieste qui explique tous les types de siestes, les durées de siestes selon les effets recherchés. Et en effet, je classifie en 2 types de siestes, les siestes énergisantes, ce qu'on appelle chez les anglo-saxons, ils appellent ça la power nap. Donc tout de suite, c'est mieux parce que vous disiez que c'était mal considéré, c'est mieux vu, il y a une notion de puissance dedans. Je pourrais vous parler du Japon. Le Japon, par exemple, la sieste est complètement intégrée dans les modes de vie, au point que les cadres qui ne la feraient pas seraient presque considérés comme des fainéants, parce qu'ils n'en ont pas besoin, c'est quelque part, ils s'organisent mal, ils ne font pas face de manière optimale face à leur surcharge de travail. Donc, ce que vous me demandiez à l'instant, c'est oui, et l'autre type de sieste, la sieste thérapeutique, en effet, on l'appelle thérapeutique parce qu'à partir du moment où il y a du sommeil lent profond, donc il faut dormir 20-30 minutes pour commencer à avoir du sommeil lent profond. Et là, on voit des effets sur le métabolisme, sur le système immunitaire, sur la douleur qui sont bénéfiques. Une sieste plus courte, on a déjà des effets positifs évidemment sur la vigilance. Je vous rappelle que la sieste, ça vous sauve lorsque vous êtes très somnolent au volant. Et ça a des effets sur l'humeur. Donc ça, c'est beaucoup plus agréable lorsqu'on travaille en communauté.
Et on verra tout à l'heure qu'il existe un véritable art de la sieste. Éric Libiou, vous êtes un adepte, vous, de la méridienne?
Non, enfin, si, je trouve ça désagréable, mais je voulais revenir sur ce que vous disiez. Il faudrait effectivement, alors je comprends les bienfaits de la sieste, mais il faudrait
vous ne m'avez pas répondu.
Non, je suis pas un grand adepte de la... J'aime bien m'allonger, bouquiner, mais dormir, pas tant que ça. Puis je suis un dormeur, je dors pas beaucoup. Bon, bref. Non, je voulais revenir. Il faudrait que socialement, dans les professions, dans les lieux de travail, que la société accepte qu'on puisse dormir. Et ce qui est pas aujourd'hui, en France en tout cas, accepté vraiment. Il faudrait mettre ça en place pour satisfaire à ses besoins de la sieste.
Alors, on y travaille quand même. Les idées infusent de plus en plus. Écoutez, sur les dernières enquêtes, on voit qu'un tiers des actifs en France pratiquent la sieste. Donc, ça veut dire que les choses sont quand même en train de changer et qui c'est pas le, aux États-Unis, au Japon, on est dans l'ordre de 50%. Je parle des actifs parce que moi,
on dort sur le fauteuil, sur les sièges, sur les canapés.
On va en parler si vous voulez.
On reviendra sur cette question de la sieste au travail. Et ben, dites-nous, vous, quel siesteur êtes-vous? Et puis, dites-nous également si vous détestez ça, la sieste, au 01 45 24 7000. Hier, dans l'émission consacrée à quelques destinations françaises, j'affirmais que Belle-Île-en-Mer était dans le golfe de Gascogne. Et mes chers invités. Mais mes chers invités me sont tous tombés dessus en affirmant le contraire. Et Gauthier Pavageau, qui habite Oédic dans le Morbihan, me confirme par courriel que Belle-Île-en-Mer se trouve bien dans le golfe de Gascogne. Et l'universaliste nous dit que la limite conventionnelle du golfe de Gascogne est une droite joignant le Cap Ortegal en Galice, en Espagne, à la bouée d'Armen, que vous connaissez bien, mon cher Éric Libiot, au large de l'île de Sein dans le Finistère. Voilà, mon honneur est sauvé. Alexia Rivière Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove. Et c'est réalisé par David Le Prince. Les Bee Gees, c'est bon ça pour faire la sieste. Hein.
Oh, doucement, ouais.
And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. How deep is your love?
Bee Gees, How Deep Is Your Love.
Grand bien vous fasse.
Alors on n'a pas cours aujourd'hui?
Non.
Qu'est-ce qu'on va faire?
La sieste.
Je m'emmerde.
Et la sieste?
Vous foutez-moi, non! C'est pas encore l'heure de la sieste! Allez hop, debout, souriez!
Sur France Inter.
10h26, on s'intéresse ce matin à l'art de la sieste avec le neuroscientifique Brice Faro et le philosophe indolent Frédéric Schifter. Dites-nous si vous êtes un adepte de la sieste au 01 45 24 7000. Dites-nous également si vous détestez ça.
Ben mon gars, ça va pas?
J'ai sommeil.
Mais tu dors depuis 3 jours.
Eh ben justement, c'est le moment, je récupère, je rattrape.
Salut. Excellent. Oh!
Ah non, pas toi, hein!
Tu vas pas rester là?
Si.
Dans ton lit?
Oui.
Bah, elle travaille.
Je m'en fous!
Et ta terre?
Elle fait comme moi, elle se repose.
T'es dingo?
Je suis fatigué. Depuis 10 ans, je suis fatigué. Je récupère, je te dis. Salut.
Extrait d'Alexandre le bienheureux d'Yves Robert qui passe bientôt hein, sur Arte.
Ah, oui. Hein, je viens de réécrire dessus dans Télérama, ça passe sur Arte dans une semaine ou dans une dizaine de jours.
Bon.
Et il faut le revoir parce qu'on en parle tout le temps comme un éloge de la paresse. C'est bien plus que ça en fait, Alexandre le bienheureux. À le revoir, c'est aussi un manifeste libertaire. La sieste et le fait de dormir veut dire exactement comme dit Frédéric Schifter autre chose. C'est un refus d'aller dans le sens que le monde vous impose.
Frédéric Schifter, philosophe, je le rappelle, vous sentez un cousinage avec Alexandre le bienheureux?
Ah ben oui, il fait partie de mon panthéon, évidemment. Moi, j'ai vu Alexandre le Bienheureux quand j'étais tout môme, et je crois que c'est un film qui précède Mai 68 et qui l'annonce hein, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, le Mai 68, pas celui des gauchistes ni des syndicalistes, mais le gauchiste libertaire, comme le dit Guimette, avec vraiment un souci de s'en foutre, quoi. Du travail, du productivisme, etc. Bref, hélas, une société dans laquelle nous sommes rentrés. Je parle de la société productiviste et consumériste. Et effectivement, et la sieste est pour moi, effectivement, comme je disais, un acte de résistance. Alors tout à l'heure, si je peux me permettre encore quelques mots, c'est aussi un art. Et quand j'entendais Brice Faro parler des différentes formes de sieste, je sais plus, power nap, je crois, etc. Oui. Oui, moi j'en étais resté à 3 types de sieste, la micro-sieste de 5-10 minutes qui permet de récupérer un peu, la sieste éclair, alors on dit 20 minutes, une demi-heure, et puis la sieste royale, alors là c'est au moins une heure. Alors moi je trouve ces siestes-là assez rikiki au fond, parce que j'habite Biarritz, la ville de Napoléon III, mais moi je pratique une sieste impériale, c'est-à-dire que, alors je prends mon temps, il faut, parce que la sieste, il faut se préparer, il faut s'allonger, il faut se mettre en tenue très molle, et puis prendre un bouquin, ne pas forcément le lire, enfin, et vraiment s'abîmer dans quelque chose qui ressemble à une sorte d'inconscience indolente, si vous voulez. Et il faut que ça dure, enfin, une heure et demie, 2 heures, enfin, il faut pas compter, si vous voulez. Il faut pas mettre de réveil. La sieste et le réveil, c'est une forme barbare. Enfin bon.
Rappelons Frédéric Schifter que vous êtes en retraité de l'éducation nationale et que vous avez un peu le temps.
J'ai toujours eu, vous savez. Je crois que j'ai toujours pris en tout cas.
Il y a aussi la sieste qui vous attrape par accident. Genre, il y a la sieste, vous êtes dans un fauteuil, vous êtes en train de lire et tout d'un coup, ce merveilleux coup de barre qui fait que vous vous réveillez 2 heures après quand même. Donc il y a la sieste surprise.
Alors Brice Faro, vous publiez un ouvrage d'utilité publique, Sauvé par la sieste, sous-titré Petits sommes et grandes victoires sur la dette de sommeil. Alors le sommeil, c'est un grand reconstituant, il nous permet d'accomplir un grand nettoyage physiologique, mais pas seulement la nuit. La sieste y contribue fortement.
Oui, absolument. Le sommeil, c'est notre première médecine, finalement. Et il y a un nettoyage. Pendant le sommeil, le cerveau est nettoyé. C'est-à-dire que pendant la veille, on accumule plein de substances toxiques. Et ben, tout ça est nettoyé pendant le sommeil la nuit, pendant le sommeil de sieste. Les hormones de stress, il faut refroidir le système. Et ça, on a bien démontré, des collègues aux États-Unis et moi-même, que au cours d'une sieste, avec un peu de sommeil en profond, on réduit l'activité des systèmes de stress. Et c'est pas négatif du tout parce que sortent au sortir de la sieste, ensuite ils pourront remonter plus rapidement et on pourrait être plus efficace et plus performant. Ensuite, il y a un effet anti-inflammatoire qui a été démontré aussi de la sieste, et toujours dans l'idée du nettoyage. Cette fois, parlons de la mémoire une minute. Consolider la mémoire, c'est le sommeil qui le fait. Et pour consolider la mémoire, on doit aussi éliminer tout un nombre d'informations parasites. Et ça, ça se fait la nuit, bien évidemment, mais ça se fait pendant la sieste. Et dès 6 minutes de sieste, on va consolider un apprentissage déclaratif. Et peut-être, on est à la fin du bac, mais ça pourrait peut-être intéresser les étudiants, s'il y a encore des épreuves. Il y a une expérience qui vient de sortir, qui est assez jolie. Des étudiants ont appris des notions pas très amusantes, très rébarbatives en zoologie. On leur a dit, vous les apprenez le matin, ensuite, soit vous faites une sieste d'une heure, soit vous continuez à bachoter, soit vous faites rien du tout, mais vous restez éveillé. Et bah, évidemment, le soir, la restitution des connaissances était meilleure, ceux qui avaient dormi et bachoté, mais une semaine après, j'en finis là, une semaine après, seuls ceux qui avaient dormi avaient mieux consolidé cet apprentissage au cours d'une sieste.
Et c'est pour cela que la sieste est fondamentale chez les tout-petits jusqu'à 2-3 ans. Ça permet de consolider tous les apprentissages.
Absolument, vous avez complètement raison. Le langage, les apprentissages sociaux, tout ça se fait, cette plasticité incroyable chez l'enfant pendant la sieste et qui a beaucoup, et des siestes très riches en sommeil paradoxal qui est un sommeil important pour toute la consolidation de ces apprentissages.
Alors vous écrivez que la sieste est une nuit en miniature, transportable en tout lieu, consommable à toute heure et délicieusement protectrice. Alors on ne le sait pas assez, mais il existe un pouvoir de la sieste, c'est-à-dire de produire à un temps record certains effets de la nuit de sommeil.
Alors, certains effets. Alors, certes, l'assiette vient en renfort de nuit de sommeil et les effets sont plus minimes, hein, bien entendu. Mais pour passer au-dessus du seuil de 7 heures par 24 heures, dont on parlait au début, écoutez, si vous dormez 6h30, il vous manque 1h30, faites une sieste de 20 minutes, une demi-heure. Et tout de suite, vous pouvez rattraper ce qui vous manque finalement, y compris pour les effets dont vous parlez, qui sont évidemment, c'est du sommeil. Alors après, on pourra peut-être détailler. Il y a selon la durée de la sieste, hein, notre philosophe tout à l'heure l'évoquait. Selon la durée de la sieste, vous avez différents stades de sommeil qui n'ont pas les mêmes effets.
Alors je connais des gens qui ne veulent pas siester parce qu'ils éprouvent du mal à s'endormir, et d'autres au contraire qui n'aiment pas ça parce que le réveil, mon Dieu, il est très douloureux.
Oui, oui, complètement. Et souvent des gens qui en ont besoin d'ailleurs, parce que ils ont un niveau de stress assez élevé, donc ils sont, parce que le manque de sommeil augmente le stress. Et le stress et l'anxiété est l'ennemi de l'endormissement, quelque part. Donc les gens qui ont besoin de faire ces siestes, mais qui n'y arrivent pas, alors plusieurs choses à leur dire. On peut s'entraîner, je veux dire aux auditeurs, je tape sur la table et ça fait du bruit et je me fais engueuler, c'est parce que je crois à ce que je dis, c'est tout. Mais ici, on n'a pas le droit de taper sur la table, je vais attacher mes mains. Ah, il y a personne qui va m'attacher les mains derrière le dos. Voilà. Donc maintenant que mes mains sont attachées, je continue mon propos. Donc, les personnes, pour revenir plus sérieusement, qui n'arrivent pas à rentrer en sommeil de sieste, on peut habituer son corps à la sieste. L'horloge biologique, qui est plastique, va, si tous les jours, à la même heure, j'essaye, la première fois, je suis pas arrivé à dormir, la deuxième fois, je ne suis pas arrivé, la troisième fois, je continue, et au bout d'un moment, le corps va vous, en récompense, va vous permettre de dormir plus facilement. Et puis, dernière petite chose, toutes les 1h30, 2h, on a des fenêtres de sommeil, la plus importante est au milieu de la nuit et en début d'après-midi, il faut les utiliser, il faut écouter son corps pour rentrer en sommeil de sieste.
Et ce retour là à la vie après une bonne sieste là, il est parfois très difficile. C'est le gros coup de barre quand même, Brice Farot.
Mais c'est parce qu'on a été beaucoup fatigué en fait. Donc
oui,
en fait, on en sort plus difficilement, non?
Pardon, oui, c'était la deuxième partie de votre question. Absolument. Alors, ça s'appelle l'inertie du sommeil. Ça, c'est proportionnel au sommeil lent profond qu'on a eu. Alors évidemment, si je fais une petite sieste, une power nap, parce que je dois être opérationnel rapidement pour un rendez-vous, je dors 10 minutes, je vais pas avoir de sommeil lent profond. Mais ce que vous évoquez, c'est qu'on dort 20 minutes, 30 minutes, voire plus, on va avoir du sommeil lent profond. Alors, cette inertie du sommeil, on est dans le gaz. C'est un état tampon physiologique tout à fait favorable, en fait. Le problème, c'est qu'il nous arrive en milieu de journée, parce que le matin, ça permet à l'ensemble des systèmes, la tension artérielle, cardiaque, de remonter doucement. Alors, comment s'en départir? Alors, plusieurs choses. Soit, je suis en forte dette de sommeil, je travaille de nuit. Donc, dans ce cas-là, je prépare un moment pour... Je sais que pendant une demi-heure, je vais être dans le gaz. Je prends un moment pour en sortir. Deuxième chose, j'utilise la caféine, la lumière, qui sont des astuces physiologiques, des outils qui vont permettre...
La caféine avant de dormir.
Eh oui, ça c'est contre-intuitif. Alors attention, alors j'explique très vite. Un café, lorsqu'on prend de la caféine, ça met 5 minutes à traverser la barrière digestive. Au bout d'une vingtaine de minutes, on a l'effet psychostimulant au niveau du cerveau. Donc je prends un café, je m'endors vite, attention, parce que si je m'endors pas vite, ça va pas marcher. Je m'endors vite et 20 minutes après, j'ai mis mon portable. Désolé aux retraités de l'éducation nationale, mais il faut mettre son portable en semaine parce que sinon ça va être compliqué de continuer de pas se faire virer. Hein, si on connaît. Donc je mets mon portable 20 minutes après et l'effet de la caféine commence à arriver alors que je me réveille. Et donc ça c'est formidable. Alors petit message de santé publique, la caféine, pas trop tard le soir. La demi-vie c'est 4-5 heures, on va pas entrer dans le détail, mais attention si on est sensible à la caféine pour l'endormissement.
Le retraité de l'éducation nationale, Frédéric Schuster.
Oui, alors... Pardon. Non, mais c'est dire que je travaille beaucoup avec des gens qui sont en dette de sommeil, dans des situations de pression de travail, etc. Donc je peux pas leur dire malheureusement ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et je comprends très bien. D'ailleurs, les siesteurs par goût et par plaisir qu'on a aussi étudié, complètement, ils font des longues siestes où ils se réveillent, ils s'endorment, ils en tirent un bénéfice psychologique de la créativité, etc.
Vous voulez pas le prendre entre laboratoire, Frédéric Schuster?
Non, il a tout compris, il n'y a pas besoin.
Oui, j'ai tout compris. Oui,
On vous écoute, Frédéric.
Oui. Non, j'ai tout compris. Mais d'ailleurs, je suis très, très content de voir que finalement, j'ai fait toute ma vie des neurosciences sans le savoir, d'une certaine façon. Et en plus, des travaux pratiques. Après, moi, je pense que la meilleure façon de se réveiller d'une sieste où on est un peu vaseux, c'est tout simplement d'attendre, oui, le temps nécessaire. Mais il faut du temps, quoi. C'est l'adepte de la sieste est un amoureux du temps. C'est un jaloux du temps à soi. On se réveille d'une sieste, comme on se réveille le matin, en prenant un thé, en mangeant des carrés de chocolat, en n'étant pas pressé. Enfin, il faut, quand on fait la sieste, ce n'est pas pour reprendre le boulot, ce n'est pas pour repartir dans une activité stupide. Il faut faire la sieste avec l'intention, effectivement, de jouir de la journée qui reste.
Et un auditeur nous demande, et la sieste crapuleuse alors, Brice Faro? C'est une vraie sieste, ça?
Alors ça, c'est une question qui revient toujours. Donc la sieste crapuleuse, quelque part, ça détend. Donc si ça détend, on s'endormira plus facilement, cette fois dans une vraie sieste avec du sommeil, après la sieste crapuleuse.
Alors on fait beaucoup de siestes, on l'a dit, jusqu'à l'âge de 3 ans. On fait des siestes à l'adolescence. Puis il existe un troisième âge de la sieste, après 60 ans. Selon une étude de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance en 2010, la moitié des plus de 60 ans font une sieste d'une demi-heure vers 13h30. Plusieurs fois par semaine.
Oui, alors c'est plus on avance en âge, plus les systèmes d'éveil se dégradent, si vous voulez. Donc vous soutiennent moins dans la journée. Donc une manière d'être performant, continuer à être performant, oui, c'est de faire ces siestes de 30 minutes absolument dans la journée. Donc c'est souvent, et puis en plus il y a une avance de phase. Quand plus on vieillit, plus on va se coucher tôt. Donc souvent les gens sont pas habitués, ils ont besoin de récupérer en effet par cette sieste de 30 minutes.
Contrairement aux apparences, Myriam et Margot sont bien au travail. Ces deux collègues ont pris l'habitude de faire une sieste avant de retourner à leur bureau.
On se sent bien, on se sent reposé et prêt à réattaquer la journée de travail.
J'ai un autre œil sur ce que j'ai écrit et je suis beaucoup plus productive aussi, beaucoup moins fatiguée comme on a des longues journées.
Cette entreprise spécialisée dans le digital propose 3 salles de repos. Loin d'être un sujet tabou, la sieste est vue comme une solution pour le bien-être des salariés.
Les gens sont assez autonomes dans la gestion de leur temps. Bien travailler, c'est aussi très dans les meilleures conditions. Et travailler fatigué, c'est pas du bonne condition de travail.
Alors faut-il rendre la sieste obligatoire en entreprise? Selon les études, dormir 20 minutes augmenterait la productivité de 35%.
On va faire du sommeil lent léger qui va permettre en fait une régénération et une augmentation en fait de notre vigilance.
Brice Faro, vous confirmez ces affirmations dans son reportage de BFM TV le 12 juin dernier?
Oui, alors ça c'est mieux que BFM, plein d'études scientifiques qui ont démontré que en effet lorsqu'on dort même 10 minutes de sommeil lent léger permet d'augmenter tout un type de performance, la mémoire de travail, la concentration, l'attention, l'humeur, ce qui est pas négligeable, et ça permet de tenir 2-3 heures dans l'après-midi lorsque on n'a pas assez dormi la veille, et donc elle vient, comme on disait, en renfort, et c'est vraiment gagnant-gagnant. Et puis on parlait du rapport au temps, et c'est un gain de temps de faire une sieste. On gagne du temps, on n'en perd pas, puisque on gagne en vitalité, on gagne en efficacité. Et dans mon livre, d'ailleurs, ça, c'est plus pour rebondir à ce que disait Monsieur Shifter, pardon, que depuis que le temps est argent, c'est vrai que le cours du sommeil a chuté, quoi. Ça, c'est clairement parce que l'hyperconnexion, enfin, tout vous sollicite pour que ça devienne variable d'ajustement, ça devienne facultatif, le temps de sommeil.
Bonjour Alexandre Jost.
Bonjour Ali.
Fondateur de la fabrique Spinoza, vous avez mené une étude sur la qualité de vie au travail et parmi vos propositions figure la sieste. Vous voulez créer un droit à la micro-sieste au travail. Qu'est-ce que la fabrique Spinoza propose concrètement ?
Bah, en fait, on s'est inspiré de la législation et notamment du droit à la déconnexion en se disant qu'on pouvait l'étendre à un droit à la micro-sieste pour faire la preuve de cette idée. Si on autorise ou on considère normal que les collaborateurs regardent leur mail chez eux, il y a quand même 20% des Français qui regardent leur smartphone dans les 5 minutes qui suivent le réveil, et souvent pour lire leur mail. À l'inverse, pourquoi ne pas s'autoriser à prendre un moment pour se régénérer au travail ? Donc nous, notre proposition, c'est un droit d'une micro-sieste de 15-20 minutes au travail, qui pourrait notamment être inséré dans les négociations annuelles obligatoires, et pourquoi pas un soutien financier de l'État à l'aménagement d'espaces pour dormir. Et alors on peut se dire, mais les entreprises vont être contre. Alors déjà, l'émission fait la preuve qu'il y a un bénéfice humaniste, mais il y a un bénéfice économique. Et ce chiffre me semble frappant. C'est le cabinet de recrutement ALF qui révèle que pour 64% des directeurs financiers et administratifs, eh bien, il est intéressant, ils sont favorables à ce qu'il y ait une sieste de 20 minutes par jour. On n'est pas en train de parler des RH, hein, on est en train de parler des responsables financiers des organisations.
Tiens, on écoute un chef d'entreprise. Bonjour Anthony Bleton-Martin, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Dans votre entreprise, il est possible de faire la sieste ?
Ah oui, absolument. Parce que j'ai toujours considéré on considère chez Novius que on a le droit d'être fatigué au travail, que c'est pas réservé au week-end. Donc on a le droit d'être fatigué, alors pas tout le temps, hein, bien sûr, mais vous l'avez souligné dans l'émission, c'est un besoin physiologique, en particulier après le repas. Alors moi, il faut préciser, je suis lyonnais, alors donc on va souvent au restaurant. On boit parfois un petit verre de Beaujolais, donc ça peut jouer aussi. Mais c'est un cycle naturel, donc ça paraît complètement aberrant de ne pas pouvoir dormir au travail.
Mais comment vous est venue cette idée qui peut paraître saugrenue à certains peut-être de vos collègues chefs d'entreprise ?
Ben, elle m'est venue que je viens de la campagne, précisément du Beaujolais. À la campagne, on fait un peu plus la sieste. Et je pense qu'on faisait plus la sieste il y a quelques dizaines d'années. Et malgré tout, le besoin physiologique n'a pas disparu. Alors maintenant, moi, j'ai une vie très urbaine. Chez nous, on est dans un cycle comme vous avez décrit ça. Hein, il faut travailler. On est sur écran, on fait des sites web. Donc on a quand même un impératif de productivité, mais sur écran, on a tendance un peu à s'assoupir. Alors si on pique du nez sur le clavier, ça fait un peu désordre. Donc du coup, il y a des gens qui se cachent pour faire la sieste, et c'est assez terrible. Il y a des gens qui se cachent dans leur bureau, il y en a qui ceux qui peuvent bouger se cachent dans leur voiture. Moi, j'ai parlé avec pas mal de gens sur ce sujet. Il y a même des gens qui se cachent dans leur toilette. Donc là, quand on en arrive ici, c'est signe qu'il y a un problème. Donc il faut assumer qu'on a des besoins physiologiques de sommeil. Et donc du coup, la meilleure solution, bah, c'est d'installer un endroit pour ça.
Alors, est-ce que vous aimeriez que les organisations syndicales, patronales se saisissent de cette question de la sieste au travail ?
Peut-être. Je suis toujours un peu partisan des initiatives individuelles. Après, je pense que c'est aussi à tout le monde de réaliser que c'est un besoin. Je pense pas que ce soit une négociation, parce que vous voyez, moi, je suis patron de mon entreprise, et c'est moi qui l'ai impulsé. Donc c'est aussi aux patrons eux-mêmes d'accepter qu'ils ont besoin de dormir eux aussi. Et finalement, c'est un geste collectif. Je pense pas que ça. Que ça soit une revendication à porter forcément, c'est quelque chose qui est universel en réalité.
Frédéric Shifter, votre regard de philosophe sur les siestes en entreprise, est-ce que vous auriez aimé siester avec vos collègues profs de latin ou profs de maths ?
Oh non, quel cauchemar. Non, j'avais dit.
Pardon Frédéric, je vous ai pas entendu.
Non, par contre, je voyais toujours d'un œil tout à fait bienveillant et plutôt Oui, sympathique, le fait que mes élèves dorment dans mes cours. voilà. Si on avait pu dormir tous ensemble, ça aurait été très bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que je demandais toujours un emploi du temps vide l'après-midi, de telle sorte que j'ai mes après-midi de libre. D'ailleurs, je les obtenais assez facilement, parce que je crois qu'on avait compris quel homme j'étais. Bon, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Non, la sieste d'entreprise, mais enfin, vous savez, bon, tout à l'heure, on parlait d'Alexandre le Bienheureux, mais j'avais aussi un héros quand j'étais môme, et j'ai toujours regardé, c'est Gaston Lagaffe. Et Gaston Lagaffe, il dort tout le temps. Il trouve toujours un moyen de se planquer dans une armoire, dans un recoin, etc., de telle sorte qu'il dorme en permanence. Et on voit bien que... Alors à mon avis, c'est pas tellement la fatigue qui atteint Gaston Lagaffe, et moi je suis un peu comme lui. Je crois que c'est surtout l'ennui. Mmh. L'ennui d'être au travail, l'ennui de faire une tâche que vous trouvez absolument inintéressante. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'oppression du monde. C'est-à-dire que le monde vous impose des nécessités, des centres d'intérêt qui n'ont rien à voir avec votre propre nature. Et il me semble que le sommeil, c'est une façon de dissoudre ça. Mmh. Et je pense que l'on peut considérer la sieste comme une sorte de à la fois c'est causé par l'ennui, donc c'est donc un effet de l'ennui, mais en même temps c'est une façon de ne pas s'ennuyer, puisque dans le sommeil on est véritablement hors du monde, et quand on se réveille, eh bien on a échappé à la loi implacable du monde. C'est une fugue.
Merci beaucoup Alexandre Jost et Anthony Bleton-Martin.
Le déjeuner me donne sommeil, alors je m'assois et je m'endors facilement.
C'est très important de dormir. La sieste, c'est important. Et c'est la base, c'est la vie.
Après avoir mangé, souvent j'ai envie de dormir et tout. Mais je suis pas trop sieste. Je dors tard, je me lève.
C'est pas que j'aime, c'est que quand je la fais, c'est que j'en ai besoin.
C'est pas tellement mon truc. Je dors la nuit et puis le jour, je fais des choses et je suis actif.
J'aime bien être calme, mais j'aime pas être à part. Je suis dans la vie.
Avant de repartir dans l'après-midi, espèce de moment paisible. Moi, j'aime beaucoup faire la sieste, en fait. Il suffit de rester. Je me dis, c'est fantastique, j'ai encore 5 minutes. Ça peut être profond, 5 minutes.
Je pense que si les jeunes aujourd'hui sont plus... le feraient plus facilement, en fait. C'est connoté différemment, je pense. Faire la sieste, dans notre génération, on sait pas, quoi.
Les gens de plus, c'est hyper bien de faire la sieste.
Quand je suis dans mon lit, je fais la sieste, des fois 30 minutes se transforme en 3 heures.
Je m'assois un petit peu, n'est-ce pas, sur la chaise. Très confortable.
Propos recueillis dans les rues de Paris cette semaine. Brice Faro, quelle est la durée idéale de la sieste ?
Alors, si j'ai dormi une heure de moins que la nuit d'avant, une heure et demie, 10 minutes, 15 minutes de sommeil, j'entends. Il faut préparer un peu de temps pour s'endormir et se réveiller, donc une vingtaine de minutes. Pour tenir le reste de l'après-midi, c'est parfait. Après, si ma dette de sommeil est un peu plus importante, on peut augmenter les durées jusqu'à 30 minutes, où on va avoir un peu de sommeil en profond. C'est donc on travaille plus en profondeur, ce que j'appelle la sieste thérapeutique. Et puis la très longue sieste qu'on évoquait tout à l'heure, la sieste royale d'une heure et demie. Alors là, pour vous donner une idée, dans une sieste d'une heure et demie, on peut avoir 40 minutes de sommeil en profond, le sommeil le plus récupérateur. Et au cours d'une nuit, en moyenne, on a 100 minutes de sommeil en profond. Attention de ne pas la faire trop tard, ça peut provoquer des problèmes d'endormissement.
Quelle est la bonne heure, tiens, justement, de la sieste ?
Et alors, donc, on a toutes les 1h30, 2h, on a des petits creux de vigilance, on peut s'endormir, mais quand même, l'idéal, quand je travaille de jour et je dors de nuit, c'est en début d'après-midi.
Parce que c'est 13h30, là qu'elle est le plus... 14h.
Alors, voilà. Alors, les gens qui sont des couches tard, ce sera plutôt un peu décalé vers 15h, et les couches tôt, plutôt vers midi.
Quelle est la bonne position du corps ? Est-ce qu'il est possible de faire des siestes en position assise ?
Alors ça a été aussi étudié en laboratoire, figurez-vous. Évidemment, alors une étude marrante, ils ont comparé dans l'avion, j'explique dans le livre, une classe économique, on est incliné à 20 degrés versus business ou encore mieux, on est complètement allongé. Bon, certes, on dort mieux complètement allongé, on a plus de sommeil en profond, plus de sommeil paradoxal et un sommeil moins fragmenté. Mais pour être plus au bureau, j'incline au moins à 40 degrés mon siège. Ça va permettre d'avoir déjà sur 15 minutes de sommeil deux fois plus de stade 2 que de stade 1 que si j'étais en position quasi verticale.
Frédéric Schifter, votre position idéale pour la sieste ?
Bah écoutez, j'ai plusieurs canapés chez moi et j'en change souvent. Enfin, l'été, c'est sur ma terrasse, un canapé très confortable, mais c'est toujours allongé, bien évidemment.
Guy Metodicino.
Est-ce que le lit est proscrit ? Est-ce qu'il faut dormir partout sauf dans le lit ?
Non, il y a pas de raison. Hein. Le lit, ça peut être très bien aussi. Après, c'est les gens.
Mais on part pour 5 heures là. Enfin, moi, je m'en réveille plus.
Mais
hein.
vous mettez votre réveil. La position, en fait, plus vous êtes allongé, moins les systèmes de stress vont être sensibles à l'environnement. Et les systèmes de stress, lorsqu'ils sentent un danger, ils vous réveillent. Donc, si vous êtes allongé, c'est parfait.
Tiens, Lélia, notre stagiaire de seconde vient d'entrer en studio. Tu nous as dit au bureau que tu aimais bien faire la sieste.
Bah maintenant plus trop, mais quand j'étais petite, tout le temps.
Avec plaisir, sans contrainte.
Ah mais je la faisais tout le temps, je rentrais à la maison, je finissais à 11h30, à 12h15, j'étais au lit jusqu'à 16h.
Brice Farreau.
Oui, alors les lycéens, la question c'est que leur horloge biologique leur dicte d'aller se coucher de plus en plus tard le soir. Ils sont très très connectés, comme vous le savez. Ils laissent même leur portable ouvert, ça fait des petits ting ting et ils pensent que ça les réveille pas, mais en fait ça fait des micro éveils. Ils ont une moins bonne qualité de sommeil. Donc le matin, ils commencent à 8h, c'est l'horreur. Donc eux, les pauvres, moi ce que je propose c'est des siestes proactives. C'est-à-dire on a réfléchi, je vais faire ma sieste à telle heure. Eux, c'est des siestes passives. Ils s'écroulent. Il y a 30 à 40% des lycéens qui font une très longue sieste en début d'après-midi. Donc là, on n'est pas encore au point de vue santé publique pour retrouver une hygiène parfaite pour
les
jeunes.
Mais paradoxalement, t'es une adolescente qui n'aime pas trop faire la sieste.
Bah, c'est surtout que j'ai pas trop le temps de la faire parce que...
Et si t'avais le temps ?
Ah, peut-être que je la ferai.
Très bien. Bonne résolution pour cet été en tout cas. Merci beaucoup Brice Farreau. Sauvé par la sieste est disponible chez Actes Sud dans la collection Questions de santé. Merci beaucoup Frédéric Schifter. Votre mystification littéraire, Ménécé, le voluptueux inquiet, c'est une réponse à Épicure. C'est assez mystérieux, mais c'est assez jouissif à lire. C'est disponible aux éditions Louise Botu. Et puis, dans quelques instants, vous allez retrouver Éric Libio. C'est la dernière de la saison, Éric. Vous êtes triste.
Oui, tant que je me réveille.
Effectivement. C'est ce que j'allais dire.
Mes souvenirs sont flous et filent sans fin. Et l'air autour vibrait. C'était hier, j'étais un autre. Croyez.
Barbagallo interpréter la paix. Et c'est l'ultime chronique, l'éternel retour d'Éric Libiot, rédacteur en chef culture de l'Express.
Et oui, Ali, aujourd'hui c'est quasiment la fin de saison hein, sur France Inter et ailleurs d'ailleurs, qui a lieu à la fin de la semaine prochaine, juste avant les vacances de juillet. C'est donc l'éternel retour du pot d'au revoir, du pot d'adieu, du pot de départ en retraite ou du pot d'arrivée sur la grille d'été de France Inter. Bref, des pots en tout genre, alors que les lycéens sont toujours en train de potasser le bac. Et justement, ne tournons pas autour du pot, Ali. Ceci est ma dernière chronique de la saison. L'éternel retour n'est pas si éternel que ça, pas plus qu'un pot la touche en tout cas. Et au début de la semaine, des pots trominés, je me demandais de quoi j'allais parler sans faire trop poseur. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est l'éternel retour de la fête de la musique et ses mélodies pop et du solstice d'été et son lot de pots hauts un peu partout en France. Mais finalement, je n'ai rien trouvé de potable à en dire et je me suis paumé sans pouvoir potentialiser sur le sujet. Évidemment, j'aurais pu aujourd'hui vous faire un pot pourri de toutes mes chroniques de l'année, mais manque de pot pour vous, je ne le ferai pas. À moins d'un pot de vin de votre part, Ali, mais ce n'est pas votre genre, vous êtes inflexible, car je sais bien qu'au pot de vin, vous préférez définitivement le pot au feu. Oui, pourtant, tout le monde sait à France Inter que vous avez un potentiel de potentat possessif, alors que vous faites semblant de jouer au potage pour faire plaisir aux potes, même si vous n'êtes pas contre une clause potestative entre vous et les chroniqueurs. Mais je dois reconnaître aussi que chez vous, un chroniqueur n'est pas une potiche, pas plus qu'un potamochère. Car c'est un secret de polichinelle, Ali, vous êtes un gars poli, mais pas polissé. Parfois même polisson, habillé de polyamide, polygonal également, puisque votre truc, c'est de trouver à chaque fois des angles pour votre émission. Vous êtes polyvalent, en tout cas, capable d'une émission sur le polypod le lundi, la poterie le mardi, la potomanie le mercredi, le potoc le jeudi et l'art de la polémique le vendredi. Ce qui fait que vous êtes quasi en pole position tout au long de l'année, notamment sur les podcasts. Mais si on va chercher un peu plus loin, on me dit que vous êtes un possessif de caractère polymorphe qui avançait telle une charrue polysoc. Vous êtes du genre polyphasé, donc pour résumer, vous êtes en courant alternatif. Et quand je dis courant, il faudrait d'ailleurs que vous repreniez la course le dimanche, car je vous trouve un petit peu potelé ces temps-ci. Bien sûr, vous avez découvert le poteau rose de cette chronique. Je voulais ainsi annoncer que vous revenez l'année prochaine. Même jour, même heure, vous avez donc sauvé votre peau auprès de la direction. Mais je n'étais pas très inquiet. Rassuré, vous allez bientôt partir en vacances dans un potala, en Poméranie ou dans la plaine du Pô. Vous hésitez encore, en tout cas, vous emporterez avec vous l'intégrale d'Edgar Allan Poe, bien évidemment. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il est maintenant temps d'aller boire un pot et pourquoi pas un pot de vin à consommer avec plus ou moins de modération.
Merci beaucoup Éric Libiot, c'est un plaisir de vous retrouver tous les vendredis avec cet éternel retour vraiment brillant en diable. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour la dernière de Grand Main vous fasse et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle chronique. Une nouvelle chronique, pas le même jour. Voilà, merci beaucoup en tout cas Éric Libiot pour cette belle année. Merci à la documentation de Radio France, aux standardistes de France Inter et à l'excellente programmation de Muriel Pérez. Merci aux techniciens ce matin, Elisabeth Collet et Kevin Pelot. Merci à Lélia, notre stagiaire de seconde, très motivée pour devenir journaliste à la radio. Lundi, second volet de notre émission consacrée à l'alimentation du cerveau. Que manger pour booster ses performances cognitives, lutter contre la fatigue psychique, renouer avec la bonne humeur. Nous recevrons le professeur Irène Margaritis, le docteur Guillaume Font et Sébastien Boller, directeur du mensuel Cerveau et Psycho. Toutes vos questions sur l'alimentation du cerveau, dès 9h au standard de France Inter, au 01 45 24 7000.